Bienvenue sur Écoute Voyageuse. Je suis Corinne Delaunay et je vous emmène explorer la beauté des mondes, visibles et invisibles. Vous êtes prêts? Allez, on embarque! Cet épisode a été réalisé en partenariat avec Mama Édition.
Chez Mama Édition, nous publions depuis plus de 20 ans des livres audacieux. Parcours de vie aux frontières de l'extraordinaire, médecine alternative, témoignages, spiritualité, des ouvrages de référence pour aujourd'hui et pour demain.
Il y a des voyages intérieurs qu'on a peur de faire, des voyages qui nous emmènent vers des gouffres de noirceur. Célia Rombaud, dans son livre « Les couches de l'oignon », nous partage son chemin vers la renaissance. Écrire son histoire fait sens. La parole est salvatrice. Elle nous console les uns des autres quand l'horreur s'arrime à l'inconscient et bannit les émotions. Attention, cet épisode secoue fort, mais est vibrant d'espoir et d'amour. Oui, il est possible de guérir même du pire. Bonjour Célia.
Bonjour Corinne.
Donc j'accueille Célia Rombaud pour son livre « Les couches de l'oignon ». Donc c'est un livre témoignage, pas que, on va le décrire, il est en plusieurs parties, qui parle de ta résilience. Merci Célia de m'accueillir chez toi et je voudrais que tu reviennes sur ce qui t'a poussé à écrire ce livre.
En fait, c'est une graine qui était existante depuis longtemps. Il y a beaucoup de choses qui me guident dans ma vie qui ne sont pas liées à ce que moi je peux penser, mais des choses qui existent en moi et bien au-delà de moi. Et du coup, il y avait quelque chose qui revenait dans un jour écrire, mais je ne le prenais pas au sérieux. Et puis, j'ai lu un jour le livre d'Adélaïde Bon, La petite fille sur la banquise, qui témoigne du viol qu'elle a subi enfant et de sa vie. Et en fait, je m'y suis tellement reconnue, ça m'a nourrie par la reconnaissance que oui, il y a un sens à partager son histoire. Et c'est vrai que au moment où j'ai découvert ce livre d'Adélaïde, j'étais déjà thérapeute spécialisée dans les traumas et j'avais, en plus de témoigner mon histoire, j'avais tellement à partager. De c'est quoi le trauma, c'est quoi la dissociation traumatique, comment on s'en sort, j'avais envie de contribuer, vraiment de dire c'est possible d'en sortir et regarder comment on peut faire.
Donc, t'expliques le cheminement. On va dire que tu vis une enfance où il y a un mal-être persistant, mais tu ne sais pas la cause de ce mal-être et tu te plonges dans la danse. Donc ça, c'est quelque chose qui fait partie de toi. Ça, c'est important de le dire parce que ça t'a permis, je pense, de te reconnecter, de toujours être vigilante par rapport à tes sensations corporelles. Est-ce que tu peux nous parler justement de ce qui s'est passé avec la danse et après, on va revenir au traumatisme.
La danse, oui, c'était un élan de vie. Je pense que quand je dansais, je pouvais être vivante. Quand je dansais, c'est comme si mon mal-être, il se mettait sur pause pendant un instant. Malheureusement, lors de ma première dépression à 14 ans déjà, quand mes règles sont arrivées, qu'on a déménagé, ben, j'ai arrêté la danse. Et donc du coup, j'ai quand même eu une période sans la danse. Et après, heureusement, c'est revenu quand j'ai repris mes études, je suis repartie dans la danse et de façon de plus en plus intensive, voire professionnelle à un moment. Et en fait, il y avait... quand je dansais, j'oubliais tout le reste et j'étais dans mon corps d'une autre façon que par la souffrance, mais par le mouvement et la présence. Et en fait, quand j'ai eu ce changement de vie, un moment où j'ai arrêté mon métier d'architecte, où j'ai déménagé pour vraiment me consacrer à la danse, très vite, je me suis rendu compte que ce n'était pas tellement la technique de la danse qui m'intéressait, mais la conscience corporelle. La conscience du corps, la présence dans le corps. Et donc, rapidement, j'ai quitté mon école de danse pour aller plus vers des pratiques somatiques, le corps vécu. Et je me suis formée d'ailleurs en body-mind centering, en pratiques énergétiques. Et c'était vraiment comment habiter son corps, comment être dans son corps, comment sentir dans son corps.
Alors, dans ce livre, tu témoignes
de ce mal-être, où au départ, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne se rend pas bien compte de ce qui se passe, enfin, on se rend compte de ton mal-être, c'est ce que tu expliques, mais on évolue avec toi. Est-ce que tu ressentais une différence par rapport aux enfants qui étaient autour de toi? Est-ce que ta famille, tes parents qui sont aimants, on peut le dire, avaient ressenti ce mal-être ou tu le cachais tellement bien qu'on ne pouvait pas le voir?
Ils ne se voyaient pas du tout de l'extérieur, notamment parce que j'en avais honte en fait. J'avais honte de qui j'étais, j'avais beaucoup de violence envers moi-même. Je crois que c'est monté vraiment avec cette première dépression à l'adolescente suite à l'arrivée de mes règles qui ont fait comme émerger des sensations, des violences sexuelles. Mais je me sentais vraiment coupée en fait du monde. C'est-à-dire que je voyais le monde, je voyais la vie et je me dis mais pourquoi moi j'arrive pas à en profiter? Pourquoi, oui, il a l'air de se passer des choses bien, mais pourquoi moi ça va pas? Qu'est-ce qui va pas avec moi? Et plus le temps passait, plus cette chose-là devenait souffrante. Plus je voulais aller vers la vie, je voulais aller vers le monde. Et je pense que le décalage avec les autres, ça a été assez flagrant justement à l'adolescence avec le désir qui pouvait monter. J'entendais des conversations, tout ça. Et moi, je ne ressentais rien de tout ça. Et je me trouvais pas normale, bizarre. Et puis surtout tellement enfermée en fait, dans mon monde intérieur dont je ne voulais pas, mais il n'y avait pas cette possibilité de créer des ponts. Et dans ma famille, c'était terrible parce que je me sentais tellement coupée, éloignée, et j'arrivais pas à dire que ça n'allait pas. J'essayais parfois maladroitement, mais ça ne marchait pas quoi.
Et tu avais cette envie d'aller vers les autres. Il y a toujours eu cette envie, cette flamme de vie au fond de toi, malgré une dépression.
Ouais, d'ailleurs, je l'appelais petite flamme, cette envie, cette flamme. Il y avait toujours quelque chose à la fois d'aller vers les autres. Et en fait, il y avait en moi cette graine d'espoir qu'un jour, je vais aller bien. Et c'était au-delà d'aller bien. C'était un jour, je vais pouvoir être moi-même en présence de quelqu'un. Parce que ça, je ne connaissais pas. Je me détestais tellement. Il y avait des mécanismes en moi, malgré moi, qui m'empêchaient d'être authentique, qui m'empêchaient de me montrer telle que j'étais, parce que je me pensais tellement mauvaise et perverse et sale et tout un tas de choses, qui fait que je n'avais pas ce chemin pour me dire, mais quand bien même je l'aurais voulu. Et j'avais cette sensation qu'un jour ce serait possible, j'avais comme une image. Et en fait, j'ai compris plus tard, quand des souvenirs sont revenus, notamment un souvenir de mort imminente, j'ai compris que j'avais perçu mon avenir à ce moment-là, qu'il y avait quelque chose en moi qui était resté de ce moment où j'avais quitté mon corps et où j'avais goûté vraiment tout cet amour. Et je crois que ça a été le cadeau, ça a été dur de retourner dans mon corps pour retourner dans ces événements horribles que j'étais en train de vivre au moment où je suis sortie du corps. Et voilà, je pense le cadeau ou le soutien que j'ai reçu à ce moment-là, c'était cette petite graine d'espoir. Tu vas t'en sortir. Et c'est ça, je pense que c'est ça qui m'a tenue en vie, quoi.
Et quel a été ton déclic pour commencer une première thérapie? Le livre, il porte bien son nom, Les couches de l'oignon, parce qu'on voit qu'au fur et à mesure, on va de plus en plus loin, profondément en toi. C'est d'un courage inouï, d'une force absolue. Enfin, moi qui ai lu ce témoignage, je peux le dire que c'est quelque chose qui... Je me suis dit, mais comment elle fait pour aller encore plus loin, parce que plus on va loin, plus l'horreur est de plus en plus violente. Enfin, la violence est toujours présente, mais on va dire qu'on va on chemine vers la noirceur. Et qu'est-ce qui a été ton déclic pour commencer une thérapie?
Mais je crois que j'ai toujours eu envie d'aide, en fait. Et à l'adolescence, j'avais un très bon copain qui était beaucoup dans la psychologie, donc assez jeune. J'ai lu tout ça, mais bon, j'avais pas les sous pour me payer une thérapie. Mais donc, c'était dès que possible, mes sous, je les mets pour aller voir un thérapeute, quoi. Donc, dès que j'ai quitté chez mes parents, je faisais mes études d'architecture, j'avais un peu d'argent de poche, ben, je me débrouillais pour économiser et mettre des sous pour aller voir une thérapeute. Après, ben, les premiers temps, on ne peut pas dire que ça a été vraiment aidant. Ce qui était aidant, c'est que ben, y avait quelqu'un à qui je pouvais dire que ça n'allait pas. Mais je n'étais pas du tout reçue et comprise. Je pense que je minimisais encore beaucoup. J'ai mis du temps à comprendre que tout le monde ne souffre pas autant. Et puis, je pense que j'avais... Ben, c'était difficile. Il y avait des choses que je ne pouvais pas nommer. J'avais trop peur d'être rejetée, jugée. Ça a été long. Ouais.
Pour venir à la conscience, alors on va en parler de ton traumatisme, parce qu'on en a parlé en off. Tu m'as dit que pour toi, c'était important de nommer les choses pour que les gens puissent aussi se reconnaître et ne pas porter aussi le poids de la honte ou de la culpabilité. Enfin, tout ce qu'on peut endosser quand on est victime. Est-ce que... Tu n'avais pas conscience, on est d'accord, de tout ce qui s'était passé. C'était des bribes qui revenaient comme le dégoût, comme la peur d'être en relation intime avec l'autre.
Oui, j'avais aucun souvenir conscient. Quand j'étais enfant, je croyais aux réincarnations. Je ne sais absolument pas d'où ça venait, parce que ce n'est pas du tout la culture de ma famille. Et je me disais que sûrement dans mon ancienne vie, je devais être une petite indienne et que j'avais été séquestrée et violée. Je me racontais ça. Et ben voilà, c'est ce qui m'arrivait en fait dans cette vie-là. Donc je savais sans savoir. Et voilà ce qu'on peut en dire. C'était dans le cadre d'un centre de loisirs pendant une semaine. Et puis voilà, c'est quelque chose qui a été... qui est organisé par un réseau, qui c'est, c'était pas la première fois, sûrement pas la dernière. Et voilà, c'est, on était plusieurs petites filles, on a été filmées, donc je pense que ça a été utilisé, ces événements-là. Et puis, bah, on a été aussi menacées de mort, beaucoup, à la fois physiquement, et puis aussi avec des revolvers. En fait, j'ai compris après, et puis malheureusement, il y a beaucoup d'agresseurs professionnels, entre guillemets, qui sont au courant que plus le trauma est grave, plus la personne va être en amnésie. Donc, c'est-à-dire que plus on va loin dans ce qu'on fait subir à la personne d'agression physique, plus on est sûr qu'elle ne va pas se souvenir. Donc là, vu ce qu'on a subi, et les menaces de mort, et les revolvers, et la tête dans la bassine, et les viols dans tous les sens, il y avait la garantie pour eux que c'est sûr qu'on ne s'en souviendrait pas. On ne peut pas se souvenir d'un truc pareil. Ce n'est pas possible. Le cerveau sidère, le cerveau coupe. Et plus c'est intense, plus il va y avoir des liaisons neuronales brisées. Déjà avec la conscience de soi, donc il y a quelque chose où ce phénomène de voir la vie très loin, qu'on appelle la dissociation traumatique, qui peut être plus ou moins selon l'intensité de la dissociation. Donc ça, plus le traumatisme est intense, plus il y a de liaisons brisées. Après, le traumatisme, là, il a duré quand même dans le temps. Et le fait d'insister sur le fait qu'on allait mourir, de nous menacer... il y a quelque chose où c'est comme si ça scellait ce processus de mémoire. Il y a quelque chose qui a intégré que même si je m'en souviens, je vais mourir. Du coup, ça, c'est horrible, mais eux, ça les protège. L'intensité de l'horreur fait que l'agresseur, il a la sécurité que la victime s'en souviendra pas.
Ça, c'est très important à dire, parce que c'est vrai que tant de victimes autour... vont dire non, mais c'est pas possible, j'ai pas pu vivre ça. Toi, tu as pu découvrir, donc au fur et à mesure de tes thérapies, vers quel âge tu as découvert ça en fait? Comment ça s'est. Le processus a été quand même très très long. Tu t'es senti quand même de mieux en mieux, mais avec des gros moments d'abattement. Mais il fallait aller jusqu'au bout. Et c'est pour ça que ton livre est en deux parties, où tu racontes vraiment la partie scientifique des traumatismes pour ouais. Que les gens puissent intégrer ça. Donc, est-ce que tu peux revenir sur justement ce long processus nécessaire?
C'est ça. Alors, ça a été nécessaire parce qu'au départ, je ne me suis pas orientée vers des thérapies sur le trauma, parce que je ne savais pas que j'en portais. Et puis aussi, on ne communique pas suffisamment sur les symptômes, sur qu'est-ce que c'est la dissociation traumatique, surtout quand on a tel mal-être, les angoisses, la dépression, ça ne tombe pas du ciel. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, déjà, on en parle beaucoup plus. Il y a beaucoup plus de thérapies qui sont spécialisées sur le trauma. Les 10 dernières années, c'est énorme comment ça se développe. Moi, à l'époque, quand j'ai commencé à chercher, il n'y avait pas tant que ça de choses spécialisées sur le trauma. J'en entendais pas parler autour de moi. Donc, ça a été déjà long parce que je ne trouvais pas des choses qui étaient adaptées à ce que j'avais. Donc, j'ai fait 10 000 choses à la fois que des thérapies classiques, mais des constellations familiales à foison. Du chamanisme, du channeling, des stages de développement personnel, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Dès que j'entendais parler de quelque chose, j'essayais quoi. L'hypnose, enfin bon, tout, voilà, j'ai essayé vraiment beaucoup de choses. Et le déclic, en fait, ça s'est fait un peu en 2 temps. J'ai commencé à me former en analyse reichienne, l'analyse somato-psycho-énergétique, la PSIS, l'analyse psychosomato-énergétique. Et déjà, donc c'est une thérapie, on se forme et on fait le processus en même temps, c'est sur plusieurs années. Et je commençais déjà à percevoir tout un tas de choses, mais ça ne faisait pas sens. C'est-à-dire que je voyais des silhouettes et j'étais terrorisée. Je disais que j'avais peur de la perversion, mais je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Donc, il y avait des choses qui commençaient à venir. Donc, c'était une thérapie qui passait quand même beaucoup par le corps et les sensations et l'énergie. Et dans ce contexte, donc j'étais vraiment très mal à l'époque, hein, très dépressive et angoissée. C'est ma tante qui m'a conseillé d'aller voir une énergéticienne, donc Agnès Thévenin, que tu as interviewé aussi. Donc, dans le cadre d'une des formations, je suis montée à Paris pour une formation, j'ai pris rendez-vous avec elle. Et quand je suis sortie du soin, où c'était même déjà dans les toilettes, j'ai commencé à voir des images. Sur le coup, c'était des images dont je me souvenais, mais là, d'un coup, j'avais vraiment un poids autour de ces images. Donc, c'était des images donc du centre de loisirs, mais en soi, juste un chemin avec des feuilles, la chemise de nuit d'une des petites filles de ma chambre. C'est juste que là, en même temps que je voyais ces images, j'étais terrorisée. Et après, je suis sortie de son cabinet et je pouvais pisser dans la cour de l'immeuble. Je me sentais incapable de franchir le seuil et de retourner dans la rue. Et ça ne me ressemble pas trop parce que je suis vraiment. Je pouvais avoir des choses, avoir peur de déranger, tout ça, mais j'ai osé retourner. Et je lui dis, je suis terrorisée, je ne comprends pas, tout ça, j'ai des images. Elle m'a gardée encore un moment. Elle m'a dit que j'ai hurlé, je ne m'en souviens pas. Et elle m'a dit, j'en ai des frissons encore aujourd'hui, je ne comprenais pas trop ce qu'elle disait, hein, j'avais pas encore conscience de c'est quoi qui est en train de remonter. Mais elle m'a dit que ces images, elles étaient réelles et que cette peur, elle était réelle et que elle savait qu'il s'était passé quelque chose. Elle sentait qu'il s'était passé quelque chose et que je pouvais faire confiance à ça. Et il se trouve qu'à ce moment-là, la thérapeute avec laquelle je me formais en APSIS, donc en analyse reichienne, elle se formait aussi en EMDR, donc qui est une thérapie ciblée sur le trauma. Et donc, je lui ai raconté ce qui se passait et elle m'a dit, OK, on va faire de l'EMDR. Et donc, on est juste parti sur ces images qui venaient, qui n'avaient pas de sens. Et là, très vite, j'ai eu des images plus précise, alors pas encore des images vraiment de viol, mais les prémices. Donc j'entendais des voix d'hommes, j'entendais leurs paroles, je commençais à sentir leurs mains sur moi, des choses comme ça. Et rapidement, avec le MDR, j'ai pu sentir dans mon corps les pénétrations, j'ai revécu l'expérience de mort imminente, la peur de mourir, tout un tas de choses. Et ça, c'était qu'une couche. C'était que la première couche, enfin, si on peut dire la première, parce qu'il a fallu gratter des couches quand même pour arriver là. Et ça a été vraiment long. Et je sais que ma thérapeute, elle comprenait pas pourquoi, alors qu'elle était dans le protocole de sa thérapie MDR, pourquoi j'étais toujours aussi mal, pourquoi ça marchait pas. Et c'est vrai que pendant 6 mois, j'étais vraiment dans le fond du trou avec toutes ces horreurs, ces sensations, et ça ne s'intégrait pas, j'en sortais pas. Ça a été long. On a vraiment tiré les ficelles de tous les côtés, expérimenté tout un tas de choses. On a abouti à un peu d'apaisement à un moment en allant rencontrer toutes les parts de moi qui ont été frappées par ce trauma. Et petit à petit, j'ai pu sentir que j'étais quelqu'un de bien. Et ça, ça a vraiment été soulageant. Ça n'a pas changé les angoisses, ça n'a pas changé la dépression, mais il n'y avait plus cette haine permanente contre moi. Il n'y avait plus cette violence que je me retournais contre moi. Et ça, déjà, ça a été un sacré pas. Et c'est à ce moment-là où j'ai commencé moi-même à être thérapeute en disant « Ok, je n'ai pas fini mon chemin, mais déjà, je peux aider les personnes à ce qu'elles retrouvent l'amour d'elles-mêmes. Déjà, je peux faire ça. » Et donc, j'ai continué à cheminer. Entre-temps, il y a eu la naissance de mon fils. Et puis, ma thérapeute, toujours la même, ensuite, elle s'est formée à l'ICV, l'intégration du cycle de la vie, qui est aussi une thérapie ciblée sur le trauma et une thérapie qui, je trouve, est très, très fine en ce qui concerne la compréhension de la dissociation traumatique et qui arrive, je trouve, vraiment bien à sortir de la dissociation traumatique. Cette thérapie, elle a vraiment compris que pour pouvoir intégrer un fragment d'un trauma, il faut que le corps sente que c'est fini. Il faut qu'on sente suffisamment que c'est fini, qu'on est en sécurité pour que le corps ose éprouver l'insécurité terrible qu'il a vécue. Et du coup, c'est vraiment une autre approche du trauma. On ne va pas du tout sur le trauma. On prouve que le temps a passé. On montre que le temps a passé en répétant toute une liste de souvenirs. Alors, il y a tout un tas de protocoles différents pour faire ça. Et petit à petit, il y a la densité qui revient dans le corps. Petit à petit, j'ai été plus présente. C'est vraiment ça le principe des couches de l'oignon. C'est quand il y a une couche qui se densifie, densifie dans le sens positif du terme, qui prend corps, qui prend matière, qui revient dans le présent. Et ben, il y a plus de solidité pour intégrer un prochain fragment. Et l'intelligence du corps est vraiment formidable. C'est le fragment qui est prêt, qui va émerger à ce moment-là pour être intégré. Et à nouveau, ensuite, on prouve que le temps a passé et il va y avoir un autre fragment qui va augmenter, qui va émerger, qu'on va pouvoir intégrer, etc. etc. C'est-à-dire qu'un trauma, on ne peut pas l'intégrer en une fois. Il y a vraiment, on prouve la sécurité, on intègre peut-être une première sensation de peur. On prouve la sécurité, le prouver la sécurité, ça peut prendre des semaines, des mois. Et puis là, on va peut-être éprouver la rage. Et puis on continue et on va éprouver une peur plus intense. Puis on continue et puis il va y avoir la tristesse. Et puis on continue, puis il y aura le désespoir. On continue, il va y avoir encore une autre forme de colère. Et puis on continue, on se rend compte, ah mais oui, mais un tel et un tel, ils n'ont pas vu. Et puis il y a de la détresse de ça, etc., etc. Et pour ça, à chaque fois, il faut consolider. Donc à la fois prouver que le temps a passé, mais à la fois intégrer d'autres couches, d'autres traumas qui empêchent d'intégrer la couche plus profonde de ce trauma-ci. Et beaucoup, il va y avoir l'importance d'aller intégrer les expériences bébés, notamment s'il y a des naissances traumatiques. Moi, je suis née prématurée, j'ai été séparée de ma mère, il y a quelque chose où il y avait à la base, puis j'ai une mère qui est pas mal aussi coupée de ses émotions, il y a quelque chose où dans le lien qui n'a pas pu se tisser de façon optimale, qui fait que ma capacité à vivre des émotions, à vivre de la détresse, de base, n'était pas optimale. Donc, il a fallu, et ça, c'est le cas pour beaucoup, beaucoup de gens, parce qu'en réalité, s'il y a un attachement très solide, donc l'attachement, c'est cette relation spontanée, que le nourrisson avec la mère, le nourrisson, c'est au-delà de l'amour qu'on peut avoir pour ses parents, physiologiquement, il y a un besoin de s'attacher pour la survie, pour la sécurité. Et selon comment la mère va répondre aux détresses du petit, aux détresses, aux signaux, aux besoins affectifs, le petit va construire une confiance en lui, une confiance dans le monde, une confiance dans la relation interpersonnelle, confiance dans l'interdépendance, tout un tas de choses qui font qu'il va être plus ou moins résilient ensuite face aux difficultés de la vie. Donc, il va falloir, pour intégrer un trauma, pour développer notre capacité de résilience, aller travailler sur les expériences bébés. Donc, on va sur les expériences bébés et hop, il y a un fragment, un nouveau fragment encore d'un trauma qui émerge. Et voilà, on avance comme ça, couche par couche, au plus profond du cœur de l'histoire de chacun.
Est-ce qu'au cours de tout ce processus, tu avais quand même des moments de grâce, des moments de quiétude? Parce que c'est vrai que quand on entend ton histoire, des gens qui peuvent l'entendre et qui sont dans le mal-être, ils vont se dire, mon Dieu, ok, je vais mettre le pied dedans, mais ça va être hyper douloureux pendant super longtemps, enfin, si je puis m'exprimer ainsi. Est-ce qu'il y avait des moments de grâce? Est-ce qu'il y avait des moments où tu arrivais à te retrouver? Enfin, comment ça s'est passé pour toi, pour donner de l'espoir?
Oui, ben, peut-être c'est vrai que ça permet de mettre l'accent aussi sur ne pas focaliser que sur la thérapie. Et moi, c'est vrai qu'il y avait, comme on en a parlé déjà, cet accès au corps. Et les premiers moments de grâce, comme tu nommes, ça a été vraiment quand j'ai commencé à aller explorer mon corps avec le Body Mind Centering, le BMC. Quand je pouvais plonger dans mes tissus, il y avait quelque chose. Et ça, pour le trauma, c'est hyper important de comprendre ce qui nous fait du bien, c'est ce qui nous amène dans le présent. Et ce qui nous amène encore dans le présent. Donc, quand je pouvais plonger, par exemple, et sentir la qualité de mes fascias et pouvoir nager là-dedans, il y a quelque chose où je pouvais reconnecter profondément à la fois à mon être, mais du coup à mon essence, donc à l'univers. Et ça, ça a été vraiment très soutenant. Donc, les pratiques corporelles, les pratiques énergétiques, la méditation. Puis petit à petit, j'ai aussi été dans le chamanisme, communiquer avec les éléments de la nature. Tout ce qui pouvait me ramener à mon essence. Parce que dans mon essence, il n'y a rien qui peut m'ébranler. Quand je contacte vraiment avec l'immensité de qui je suis, tout est transcendé en fait instantanément sur l'instant. Alors bien évidemment ça dure pas au stade où on en est, il y en a certains qui arrivent à vivre dans cet état là mais c'est comme tu dis des états de grâce. Ce que j'aimerais vraiment partager, c'est que justement plus j'ai été intégrée mes traumas, plus j'ai eu d'états de grâce en fait. Dans ce sortir de la dissociation, il y a, comme je l'expliquais, être de plus en plus dans le présent, de plus en plus dans son corps, on pourrait dire de plus en plus ancré, aligné. Et il y a quelque chose où on est de plus en plus là et on peut de plus en plus goûter les petits bonheurs de la vie. Et au-delà de ça, ce que j'expliquais avec la partie bébé, en fait, c'est augmenter notre capacité à ressentir. Alors oui, dans le processus thérapeutique, c'est augmenter la capacité à ressentir. Ça va permettre d'aller embrasser les ombres et les horreurs. Mais du coup, ça veut dire qu'on a aussi plus de capacité pour embrasser la lumière et l'amour. Donc, il y a quelque chose où plus j'ai avancé, plus je me suis sentie solide, stable, plus j'ai pu goûter de l'amour, de la présence. Et puis aussi, il y a quelque chose, ça a vraiment été en travaillant sur les parties bébés, où j'ai pu de plus en plus goûter des relations intimes et sociales, fluides, nourrissantes, des amitiés de plus en plus profondes, en confiance. Donc, c'est vraiment... Moi, j'aime bien parler de la roue. Quand on voit une roue qui avance, ici on est au sommet de la roue, donc c'est là où on est, on va dire les états de grâce, les états de bonheur, on est au sommet de la roue. Quand la roue avance, ben à un moment donné on va se retrouver en bas de la roue. On va être ben pas bien, on va aller être dans chercher nos ombres, dans le marasme, tout ça, et on peut avoir l'impression de reculer, mais en fait on avance. Et c'est comme ça qu'on avance avec ce phénomène de la roue. Voilà, on continue toujours à avancer et en avançant, ben, y a des moments où on va creuser dans nos ombres et des moments où on va célébrer la vie. Et à chaque fois qu'on plonge dans nos ombres, on est plus loin que l'étape d'avant. On plonge dans nos ombres avec une roue de plus en plus stable et solide, avec la confiance qu'on sait que ça va remonter. Et même si l'intensité Et peut-être de plus en plus, parce que depuis la fin du livre, j'ai encore eu des remontées traumatiques encore pires que ce qui est écrit dans le livre, pour vous dire. Mais dans un contexte tellement... Ça ne m'a pas ébranlée. Il y a quelque chose où il y a de la solidité. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas être prise par des charges émotionnelles intenses, mais il y a toujours la confiance maintenant. C'est à l'intérieur de quelque chose qui est stable, qui est solide, et puis ça ne dure pas.
En fait, tu continues ta thérapie à l'heure actuelle.
Ouais.
Tu penses que c'est sans fin ?
Oui, je pense qu'à un endroit, c'est sans fin. Donc, parfois, je me dis, quand est-ce que je prendrais juste la voie de la méditation ? Parce que c'est vrai que c'est une belle façon aussi pour accueillir les charges. Pour l'instant, j'apprécie être accompagnée, avoir du soutien. On verra comment ça se...
C'est peut-être lié aussi à ton métier de thérapeute, parce que quand on est thérapeute, c'est important aussi de se faire accompagner.
Oui, bah après, la thérapie individuelle et les supervisions, ce n'est pas tout à fait pareil. Mais effectivement, en tant que thérapeute, c'est fondamental de travailler sur soi, on est bien d'accord. Et aussi fondamental de se faire superviser. Donc, c'est sûr, je fais les deux. Et c'est vrai que la thérapie sur soi, c'est un peu une formation continue. Parce que oui, je me suis beaucoup formée, beaucoup aussi sur... spécifiquement le trauma, la dissociation, mais c'est quand même en thérapie sur moi que j'ai appris le plus de c'est quoi le trauma et la dissociation.
Est-ce que tu penses qu'à l'heure actuelle en France il n'y a pas assez de thérapies spécialisées sur le trauma?
Je ne sais pas s'il n'y en a pas assez. Par contre, ce que je trouve regrettable, c'est que dans les institutions ce ne soit pas développé. Et je sais que notamment dans le cursus pour être psychologue à l'université, mais c'est très très peu ce qu'ils enseignent sur le trauma. Ça commence, mais c'est vraiment très peu. Alors qu'en fait, c'est la base. Sans parler d'événements vraiment terribles comme j'ai pu subir, et tout le monde a vécu des traumas. Parce qu'en fait, un événement, il est considéré traumatique à partir du moment où on n'a pas la capacité de l'intégrer. Donc, à partir du moment où le cerveau, il va sidérer. Et au moment où le cerveau, il sidère, il y a tout un tas de sensations, d'émotions, de pensées qui vont être intégrées dans la mémoire émotionnelle hors du temps et pas dans la mémoire autobiographique, c'est fini, ça m'est arrivé. Et je pense à des expériences, par exemple, d'humiliation à l'école. Quand je dis d'humiliation, ça peut être vraiment des choses simples, mais qui peuvent sur le coup nous figer, ça fait trauma, et du coup, l'enfant, il va intégrer ce qu'il a entendu, « Ah, mais toi, t'es ceci, t'es cela », il va le garder en lui. Ça, psychiquement, c'est ce qu'on appelle un trauma. Et la naissance est souvent traumatique, c'est tellement rare d'avoir malheureusement encore aujourd'hui des parents, malgré toute leur bonne bienveillance, qui arrive vraiment à s'accorder, parce que pour s'accorder vraiment avec un petit, il faut être en sécurité. Il y a plein de parents, autant, comme tu disais, voilà, avec mes parents, ils sont très aimants. Il y a plein de parents qui sont hyper aimants, mais s'ils ne sont pas en sécurité, ils ne peuvent pas apaiser leur petit. Et en fait, pour moi, tout ça, c'est la base de la psychologie. J'ai du mal à comprendre que ça ne soit pas la base de ce qui est enseigné, en fait. Mais ce n'est pas le cas, et c'est dommage. Parce que notamment, il y a dans les centres médico-psychologiques, il y a des thérapeutes, des psychologues qui sont là pour accueillir de façon gratuite des personnes en détresse, mais elles ne sont pas formées. Non seulement elles ne sont pas formées, et puis les conditions qu'elles ont, c'est terrible. Je crois que c'est des séances d'une demi-heure, elles enchaînent les patients, elles ne sont pas super bien payées. Bon, forcément, les résultats, ils ne sont pas extra non plus, quoi.
Dans ton livre, tu donnes toute la liste des personnes, des différentes thérapies que tu as effectuées pour que les lecteurs puissent aller piocher dedans et trouver la meilleure, parce que c'est vrai que tu parles beaucoup de l'ICV, mais comme tu le dis si bien, ça fait partie de toi, toi ça t'a aidé, mais peut-être que quelqu'un d'autre pourra être aidé d'une autre manière.
Oui, Oui, moi j'aime beaucoup renvoyer la personne à son guide intérieur. Moi, il y a vraiment eu donc ce changement de vie, ce shift où voilà, je suis partie vivre à l'autre bout du monde et j'ai commencé à écouter en moi. Et si on ne sait pas ce que ça veut dire écouter en soi, c'est qu'est-ce qui me donne de la joie? Et ça, on le sait. Est-ce que si je me projette, tiens, je vais prendre rendez-vous avec tel thérapeute? Est-ce que le cœur il s'ouvre? Est-ce que c'est joyeux? Est-ce qu'on en a envie? Ou est-ce que ça fait bof? Et c'est ça pour tout. Et si on se met à guider sa vie comme ça, qu'est-ce que je sens? Où est-ce que j'ai l'élan? Ok, ma tête, elle me dit que c'est complètement dingue. Peut-être, mais mon corps, il s'ouvre. C'est là qu'il faut aller. Et ça, c'est la meilleure boussole. Personne ne pourra donner une meilleure indication que ça. Donc moi, je conseille plutôt les gens à ça. Et puis surtout, j'explique vraiment concrètement que les personnes, elles comprennent que déjà, ce n'est pas une fatalité, que ce n'est pas qu'elles sont bizarres ou anormales ou je ne sais quoi, et que ça s'explique tout ça. Mais oui, tu ne te sens pas bien, tu ne sais pas pourquoi. Ben oui, ça s'appelle une amnésie. Ce n'est pas quelque chose qui tombe du ciel. Et ah oui, mais moi, je ne ressens rien. Ben ouais, tu es complètement dissocié et c'est comme ci, comme ça. Et voilà comment tu peux retrouver tes sensations. Et c'est hyper, hyper important pour moi de déjà donner beaucoup de clés de compréhension. Parce que déjà, par la compréhension, il y a beaucoup de choses qui s'apaisent. Ça ne suffit pas, mais c'est complémentaire parce qu'on peut passer des années en thérapie, mais si on ne comprend pas ce qui se passe pour nous, il y a quelque chose qui ne va pas se débloquer. Parfois, je préfère le nuancer quand même. Il y a des personnes et c'est le miracle de la vie. Merci. Ils vont mal, ils vont voir un thérapeute en je ne sais combien de séances. Ils n'ont rien compris ce qui s'est passé. Ils vont mieux. Ça existe aussi. Dieu merci. Voilà, chacun son chemin. Et voilà, moi, ça m'a tellement aidé de comprendre ce qui m'est arrivé que j'ai vraiment cœur de partager.
Oui, c'est ton étendard et c'est nécessaire aussi. En plus, en tant que thérapeute, je trouve ça génial que tu allies le tout et que tu continues ta vie malgré tout ce qui s'est passé. Ça, c'est un super exemple. On va en revenir parce que on va continuer, mais j'ai quand même une question essentielle. Quand on est coupé de tout, quand on a subi un traumatisme, on a du mal à se faire confiance, on ne fait plus confiance en son corps. Là, tu es en train de dire que le guide intérieur, il est toujours présent. Il est toujours présent. On peut quand même faire confiance en ses ressentis, même si on s'est vraiment coupé. On a l'impression qu'on est enseveli dans cette peine. Et là, tu dis, bon, il faut essayer d'aller chercher cette joie. On peut faire confiance en ça, je
C'est
pense.
une très bonne question. Et effectivement, c'est très compliqué. Quand il y a eu beaucoup de traumas interpersonnels, des troubles de l'attachement vraiment difficiles, faire confiance à l'autre, déjà, c'est très compliqué. Ça peut être très dangereux. Ça réactive des choses qui fait que quelque chose qui est bon pour nous, la personne peut ne pas le sentir. Et inversement, peut être attiré vers quelque chose qui va la nuire. C'est pour ça que pour moi, c'est peut-être la chance que j'ai eue lors de cette expérience de mort imminente, cette flamme que j'ai eue, cette bonne étoile qui fait que j'ai pu être guidée. Et je pense que pour trouver cette sensation qui nous guide, il y a quelque chose où on est obligé d'aller dans le transpersonnel. Si on essaye de savoir ce qui est bon pour nous depuis l'échelle de la personne, on va être brouillé par les blessures et par toutes les réactivations traumatiques, par les peurs, etc. Donc, il y a besoin, et ça, j'entends que ce n'est pas forcément facile d'accès, mais je suis sûre que on a tous ça en nous. Et peut-être que ça va être d'aller dans la nature, ça va être d'aller en contact avec un arbre, peut-être ça va être en lien avec des animaux. Pour les personnes très dissociées, la nature, c'est vraiment une grande ressource. Et le monde subtil, à travers la nature ou de façon plus directe, pour les personnes peut-être qui ont une foi, religieuse ou pas religieuse, comment se connecter à son être plus profond. C'est vraiment. Alors, j'aurais du coup un conseil, C'est une BD que j'ai trouvée géniale qui s'appelle Allô, moi-même. C'est une BD qui est écrite par Armella et Lulumineuse, je crois. Et elle dit comment apprendre à écouter les messages de ses guides. Et elle l'explique d'une façon, mais hyper simple, version 1 plus 1 égale 2. Et elle te montre les petits dessins, et en plus, c'est rigolo, et c'est plein d'humour. Et en fait, c'est tellement simple, et tout le monde peut faire ça. Et à un moment dans cette BD, elle explique la différence entre une idée et une pensée. On pourrait dire une intuition et une pensée. Il y a vraiment ce truc de la pensée, ça a son chemin. Alors, on pourrait faire toute une dissertation sur d'où vient la pensée. Mais je parle de quelque chose qui tourne en boucle. Et on s'accroche. Et puis ça a un fil, et puis ça a une narration, et puis on se raconte, ah oui, mais si je vais là, est-ce que si, est-ce que ça, ah oui, en revanche, il y a machin qui est ici, et parce que peut-être que, ok, tout ça, c'est le brouillard. Et puis, parfois, on est là, on est dans son bain, on se balade, ou on fait la cuisine, et oh, tiens, il nous arrive un truc. Bah ça, c'est pas nous. Ça, c'est nos guides qui nous parlent. C'est des informations qui viennent. Et c'est comme ça qu'on arrive à se connecter avec notre intuition, c'est-à-dire avec l'essence de qui on est. Et c'est toute une pratique après de pouvoir se mettre dans des états où on reçoit ces intuitions ou les idées ou peu importe comment on les appelle. Et en pratiquant, mais vraiment pas longtemps, on voit la différence. Ce n'est pas un truc qui chemine de « ah oui, si, et ça, et donc, et nanana » avec une chronologie, avec un cheminement de la pensée. Ça vient instantanément. Ça peut être aller dans la nature, respirer profondément et poser une question. Oh, est-ce que ce serait bon pour moi d'aller faire cette thérapie ? Clac, le premier truc qui vient, c'est quoi ? Mais si déjà on l'a malaxé, remué, brassé, ben, y a tout le, ça fait comme un nuage de pensée autour. Donc, il faut un peu d'entraînement, mais vraiment, moi, je suis sûre que tout le monde a accès à ça.
Et peut-être dire aux gens que même s'ils sont dissociés de leur corps, leur corps sera toujours avec eux. Ça fait partie d'eux. Donc, il y aura toujours un moment où il y aura un ressenti ou quelque chose qui fera que, comme un élan de vie, quoi qu'il arrive.
Oui, ça, c'est sûr. S'ils sont... autant qu'on puisse être dissocié, on est toujours là. Donc, à partir du moment où on est vivant, c'est qu'on a survécu à cette chose-là. Mais ça, ça peut être long à prouver selon les traumatismes. De oui, tu as survécu, tu t'en es sorti puisque tu es là devant moi. Ok, tu es peut-être là devant moi dans un état vraiment de mal-être, mais tu es là, tu n'es pas mort, tu t'en es sorti. Et ça, ça peut effectivement être long à prouver. Mais par rapport à ce qu'on disait avant sur l'intuition, c'est même pas par le corps physique que ça passe, ça. Donc, c'est pas un souci d'être coupé de ses sensations physiques ou de ses émotions pour recevoir ses intuitions. C'est une sensation globale. Tout à l'heure, je parlais de la joie. C'est évident que ça va cheminer dans le corps et puis ça va après sécréter des endorphines et puis il y a des sensations d'ouverture, tout ça. Mais avant ça, c'est par des corps plus éthérés qu'on perçoit ce type d'information. Donc, il n'y a aucun souci, ça passe.
Merci. Là, j'ai envie de venir à la femme que tu es maintenant. Parce que donc, on a bien compris, tu as été victime d'un réseau pédophile. Bien avant, il y a eu beaucoup de séquelles aussi traumatisantes. Dans le livre, tu le racontes. Et maintenant, tu es une femme qui a eu des enfants, qui a une vie épanouie et une vie sexuelle épanouie. C'est vraiment, vraiment hyper important de le dire parce que les femmes ou les hommes victimes de viols, de traumatismes sexuels, ont l'impression, enfin, se disent que tout est fini pour eux. Alors que, comme tu le dis si bien, la sexualité, c'est l'essence de la vie. Et donc, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Parce que pour moi, c'est fondamental.
Ça me tient tellement à cœur. Moi, je viens d'un endroit où je ressentais rien. Mais rien de chien. Je ne savais pas ce que c'était le désir. Je ne savais pas ce que c'était le plaisir. Et ça a duré, mon Dieu, des années. sans savoir si un jour, enfin, j'allais ressentir des choses de cet ordre-là, et avec en plus l'intuition de ce que c'était. Donc oui, c'est vraiment possible de se réapproprier son corps, sa capacité d'être en paix, et surtout de remettre la vie dans son bassin, de retrouver l'énergie sexuelle qui circule de façon libre. Dans mon chemin, c'est d'abord passé par les pratiques taoïstes. Moi, ce que j'ai adoré avec le Tao, c'est que ça mettait vraiment l'accent sur la sexualité, c'est la santé. J'ai vraiment aimé ça. Ça a décontextualisé quelque chose. Et pour eux, en fait, l'énergie sexuelle, c'est pour être en bonne santé. Et une fois qu'on est en bonne santé, et ben après, on travaille son corps énergétique. Puis après, on travaille son corps spirituel. Tout ça avec l'énergie sexuelle. Et du coup, j'ai trouvé génial. Ça a complètement décomplexé. Ça a enlevé tout un tas de peurs, de tabous que je pouvais avoir autour de la sexualité. J'ai commencé à en parler de façon simple. Sexualité, c'est la santé, et je peux. Alors, il y avait quand même eu du chemin avant, mais du coup, j'ai découvert une sexualité en autonomie d'abord, même si j'avais aussi un compagnon, mais je pratiquais beaucoup en autonomie, et je faisais circuler l'énergie sexuelle dans mon corps. Donc, ça prend du temps pour apprendre ça, et il y a aussi des pratiques dans le Tao qui ne sont pas liées à la sexualité. Donc, j'apprenais à faire circuler l'énergie en dehors de pratiques sexuelles. Et puis, je pouvais ensuite activer mon énergie sexuelle en caressant. Et je la faisais circuler dans mon corps. Et juste avant l'orgasme, j'aspire l'énergie sexuelle pour l'envoyer dans mon cœur, dans mon cerveau, dans mon foie. Et l'orgasme, il n'est plus à l'endroit des parties génitales, mais dans le corps. On sent le cerveau qui se passe et on est régénéré. Donc, moi, ça m'a vraiment soutenue, ça a mis de la joie autour de la sexualité, c'est vivant, c'est simple. Par contre, il y avait quelque chose où, avec l'autre, c'était toujours compliqué, parce que j'avais pas du tout résolu mes traumas et il y avait trop de peur qui se mettait. Donc, il y a eu effectivement ce besoin d'aller intégrer les traumas sexuels, donc de façon vraiment spécifique. Et en plus, j'ai découvert une grâce, le massage de yoni, le yoni massage. Le yoni, c'est le sexe de la femme en sanskrit. Et donc, comment masser son sexe vraiment sans intention sexuelle, dans la présence, trouver une autre façon de se toucher sans intention, sans direction, juste être là, accueillir, donner de l'amour. Et ça, c'est tellement bon de pouvoir... Déjà, il y a quelque chose où, dans ce chemin aussi, plus avec le BMC, j'avais commencé à trouver cette douceur de pouvoir juste me masser, mais pas forcément le corps, le visage, trouver vraiment ce plaisir de se donner de l'amour, de se donner de l'amour. Ça va vraiment avec l'amour de soi, ce chemin. C'est pour ça que je parle aussi beaucoup. Les expériences bébés sont fondamentales sur la qualité de notre sexualité. Et aussi dans la partie interne, donc le massage interne de la yoni, il y a énormément de tensions à déloger. Donc oui, j'ai encore eu des flashs de trauma quand je pouvais aller masser à cet endroit-là. Je peux masser aussi avec des pierres ou utiliser des œufs de yoni. Et en prenant beaucoup de temps, donc je continue, voilà, c'est une pratique qui fait partie de mon hygiène de vie, on va dire. J'ai délogé beaucoup de tensions et surtout, j'ai libéré l'énergie. Et là, j'ai commencé à avoir des ondulations de la colonne très fortes. Mon corps a commencé vraiment à se libérer. Il y avait beaucoup de blocages. Et il y en a encore. Parce que c'est vrai que ces secousses qui sont impressionnantes de la colonne, c'est des charges énergétiques qui se libèrent en réalité. Mais une fois que c'est libéré, il n'y a plus... Ça circule sans secousse, normalement. Et c'est de plus en plus le cas pour moi. Et là, il y a entre l'intégration des traumas et le massage de la yoni, plus aussi tout le travail sur les parts bébés, il y a quelque chose qui s'est vraiment radicalement transformé dans ma sexualité. Déjà, il y a quelque chose où j'ai appris à faire confiance à mon rythme et être dans le présent, tout en restant avec l'autre. Ça veut dire que je suis avec l'autre, mais pour autant, je ne me cale pas sur le désir de l'autre, sur le rythme de l'autre, sur les besoins de l'autre. Mais comment tout le temps rester en présence en respirant profondément, sans chercher à vouloir aller quelque part. Il y a énormément à déconstruire autour de la sexualité. J'ai beaucoup lu aussi sur le slow sex. Moi, je suis vraiment fan du slow sex avant toute chose parce que je trouve dans plein d'autres pratiques, il y a encore quelque chose qui veut obtenir quelque chose, qui veut de l'intensité, qui veut de la magie, qui veut ci, qui veut ça. Mais arrêtons de nous demander autant, de se mettre autant de pression. C'est violent, en fait, de vouloir obtenir quelque chose de nos sexes, c'est violent et c'est pas fait pour ça. C'est fait pour être honoré, pour être aimé, et dans ce temps qu'on prend sans rien vouloir d'autre que être là et aimer, ben là, c'est bien plus que ce qu'on pouvait imaginer, ce qu'on récolte. C'est bien plus que de l'intensité du plaisir, ou c'est de la félicité, c'est autre chose. Et je crois qu'il y a, un gros malentendu autour de c'est quoi la sexualité. Je crois qu'on s'est complètement fourvoyé les siècles et les siècles derniers. C'est autre chose. La sexualité, c'est une méditation d'amour transcendantale. Voilà, pour moi, c'est ça. Et dans la confiance, et dans l'intimité, dans le partage, dans la présence, et laisser le corps se détendre. Dans ce sexe, ils insistent beaucoup sur cette notion de détente. Et oui, il peut y avoir du désir, mais c'est un désir dans la détente et pas ce désir d'un coup qui fait que le corps il se tend parce qu'il veut aller quelque part. C'est plus, ok, si on, bien évidemment, ce mouvement il se crée puisqu'on vient tous de ça et c'est pas grave. Bien évidemment, tous on a ça et c'est ok aussi de faire l'amour avec excitation et de vouloir aller à l'orgasme et avoir un orgasme. Et pourquoi pas? C'est juste, c'est pas profondément ce que notre âme elle veut. Et ce n'est pas profondément ce qui nous nourrit. Et en l'expérimentant, on le sent bien. Et plus on ose prendre ce chemin de « je sens le désir » et juste je le laisse se répandre dans mon corps sans vouloir rien du tout. Et je laisse mon corps parler et j'écoute et ça se déroule tout seul.
Je suis tellement d'accord avec toi. Je trouve que cette société, on la nomme patriarcale, mais c'est l'exacte vérité. On nous a tellement appris, nous les femmes, à ce qu'il fallait qu'on fasse, qu'on se plie au désir. Les hommes aussi, ils ont une telle pression. On en avait parlé ensemble quand on s'est appelé la première fois. Les hommes ont une telle pression de performance, de donner l'orgasme à la femme, d'avoir leur orgasme, d'éjaculer, c'est un orgasme. Tout est tellement embrouillé. Et comme tu dis, en fait, moi j'adore ce que tu as dit, le sexe, c'est la santé. Et rien que ça, si on se met ça en tête, bah, il n'y a plus de performance. La santé, bah, on la prend de toutes les manières. On peut lancer un message aux hommes, parce que je pense que s'ils nous écoutent, ça serait génial.
Oui, merci d'en parler, parce que je trouve qu'on est extrêmement dur avec les hommes. Et moi, ça me touche beaucoup. Les hommes, ils souffrent énormément aussi du patriarcat. Ce n'est pas parce que le patriarcat est rassocié à une énergie masculine et parce que le masculin fait beaucoup de mal que les hommes ne souffrent pas terriblement de cette société patriarcale, de cette vision patriarcale de la sexualité. Et je trouve hyper important de voir qu'en fait, cette sexualité, elle blesse autant le féminin que le masculin. Elle blesse l'essence de qui nous sommes. Elle blesse l'amour qui veut se déployer. Et aussi bien chez la femme que chez l'homme, l'amour veut se déployer. Et pas plus chez la femme que chez l'homme, l'amour veut se déployer. Peut-être d'une façon différente, mais l'amour veut se déployer. Et je trouve que les hommes, ils ont vraiment cette souffrance aussi. En plus, eux, ils sont associés à cette violence. Ils sont associés à cette façon conventionnelle de la sexualité, ils sont associés à ça et du coup ils ont énormément de confusion et ils ne savent pas comment sortir de ça puisqu'on n'en parle pas. Et un homme, et là j'ai envie de vous parler de Jean-Philippe Ruette, lisez le livre de Jean-Philippe Ruette qui dit « Cœur et sexe enfin réconciliés ». C'est magnifique comment il parle de la femme, c'est magnifique comment il parle de la sexualité. Parce que finalement, ces réflexes de préhension que les hommes et les femmes portent autour du désir et autour de l'orgasme, c'est un fléau qui empêche le cœur et sexe enfin réconciliés. Et vraiment, aller lire ou écouter Jean-Philippe Rett, c'est un poète qui parle de tout ça de façon vraiment fine et délicieuse.
Oui, il y a vraiment ce fléau actuel, comme tu dis, actuel, enfin qui existe depuis des années, mais encore plus présent à l'heure actuelle, de la pornographie, où c'est pas la sexualité, on en parle de plus en plus pour vraiment exprimer ça. Ce n'est pas la sexualité, comme tu dis, c'est tellement plus. Il y a tellement à offrir et d'amour, et on reçoit tellement plus. Et même dans un couple, on peut croire en la durée d'un couple grâce à ça. Parce que c'est vrai que la pornographie, tout ce qu'on nous a mis en tête, bah, au bout d'un moment, on se dit, on se lasse, on va voir ailleurs. Alors qu'on a tellement de choses à explorer, et de toutes les manières que ce soit.
Et pourquoi on se lasse? Parce qu'on part dans un schéma qui veut obtenir quelque chose et qui est basé sur l'excitation. Et donc, l'excitation, elle veut du nouveau. C'est ça qui va exciter. Donc, au bout d'un moment, il n'y a plus d'excitation. Et comme on connaît que la sexualité basée sur l'excitation, ben, on va chercher quelque chose qui nous excite ailleurs. Mais ce n'est pas ça, la sexualité. La sexualité, c'est être dans la présence avec l'autre. On ne peut pas se lasser de ça. On ne peut que être de plus en plus intime, de plus en plus en confiance, de plus en plus en amour.
Merci pour ces paroles. Moi, je ne sais pas quoi rajouter de plus parce que je trouve que c'est tellement important. En plus, venant de quelqu'un qui a subi tellement de traumatismes à ce niveau-là, qui a été blessé au plus profond de son être, c'est pour moi la plus belle parole d'espoir que tu peux dire, de parler de la sexualité de façon aussi libérée, aussi belle, aussi joyeuse, et de reconnecter, de dire aux gens, quel que soit votre traumatisme, quel que soit ce que vous avez pu vivre, vous pouvez accéder à cet état de grâce là, en étant vivant sur nos terres à l'heure actuelle. Parce que c'est vrai qu'on parle toujours de l'au-delà, mais là, présentement, vous pouvez y accéder. Et toi, maintenant, tu animes des cercles de femmes ?
J'accompagne les femmes. J'ai un programme en ligne et des retraites. Et donc, il y a vraiment beaucoup de choses que je transmets, des cours en ligne. C'est vraiment un programme qui s'étend sur une année ou bientôt, que je vais diviser en 4 portions pour que les femmes puissent le faire aussi plus à leur rythme et avec des retraites. Et donc, c'est beaucoup sur retrouver la conscience dans le corps, la conscience énergétique, intégrer ses traumas et bien évidemment éveiller l'énergie sexuelle féminine, se déployer pleinement dans son féminin.
Est-ce que tu as prévu un deuxième livre ? Par rapport à la suite de tout ce que tu es en train de nous dire,
ouais, c'est en gestation. J'ai vraiment envie de parler plus de la sexualité et de comment justement elle se déploie, et de pouvoir à la fois, comme dans ce livre-là où je donne beaucoup de clés sur le trauma, donner beaucoup de clés sur la sexualité. Mais c'est pas pour tout de suite.
Mais on l'attend avec impatience. Ton mot de la fin.
Amour.
Amour. Merci beaucoup, Célia. Merci beaucoup.
Merci, Corinne.
Merci pour votre écoute. Vous avez aimé? Alors abonnez-vous et n'hésitez pas à partager. À très vite sur Écoute Voyageuse.